Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français à 2 mois et demi de la présidentielle. Un sondage Ipsos Soprastaria pour France Inter le confirme. Entre inflation et négociation salariale, c'est un vrai débat social qu'attendent les électeurs et aussi votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Vous pouvez dialoguer avec lui, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Pour l'instant, je ne suis pas candidat, mais je prendrai la parole bientôt. La petite phrase de François Hollande qui risque de faire couler beaucoup d'encre en pleine division à gauche, on va l'entendre. Dans ce journal aussi, 1 million de primo-vaccinés entre mi-décembre et mi-janvier. Le pass vaccinal entre en vigueur aujourd'hui et convainc une partie des récalcitrants. La mort du couturier Thierry Mugler, 30 ans après sa création, les femmes portent toujours son parfum Angel en forme d'étoile bleue. Les familles des diplomates américains appelés à quitter l'Ukraine. Le risque d'attaque russe est imminent, selon Washington. Et puis, peindre hors du monde, nous irons méditer devant des montagnes chinoises. C'est une expo zen à Paris.
France Inter.
Quand les candidats à la présidentielle proposent tous ou presque une hausse des salaires, c'est aussi le sujet du moment dans les entreprises. La campagne face aux préoccupations sociales des Français, priorité numéro 1 selon notre sondage Ipsos Soprastaria. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour.
Le social avant la santé, l'environnement et l'immigration.
Oui, le social, la crise à résoudre en priorité pour 42% des sondés, devant la question environnementale, 33%, et la crise identitaire, 25%. Dans le détail, quelques variations. L'angoisse identitaire domine chez les plus de 60 ans. Pour les cadres, le climat passe avant le social. Et les Français veulent qu'on leur parle de quoi ? À 51% de pouvoir d'achat. C'est le sujet qui écrase tout et qui monte depuis septembre avec l'inflation des prix de l'énergie. Sujet ultra dominant dans toutes les sensibilités politiques, sauf chez les partisans de Yannick Jadot et d'Éric Zemmour. Derrière vient l'inquiétude sur la santé, l'environnement, puis l'immigration en quatrième position seulement.
Yael, ce qui frappe dans ce sondage, c'est le décalage entre les attentes des Français et ce qu'ils entendent dans cette campagne.
Oui, c'est flagrant, le pouvoir d'achat, priorité des priorités, mais 56% des sondés jugent que c'est le Covid qui est le sujet le plus mis en avant par les candidats. Décalage aussi concernant l'immigration, thème surreprésenté. A contrario, santé, environnement et retraite ne sont pas suffisamment abordés. Au final, une courte majorité, 51%, estime que les candidats abordent les bons sujets. Et qui est jugé le plus crédible ? Avantage Emmanuel Macron sur presque tous les thèmes, en particulier la gestion de crise sanitaire. Yannick Jadot passe en tête sur l'environnement. Jean-Luc Mélenchon est devant sur les inégalités. Avantage Marine Le Pen pour la lutte contre le terrorisme, la délinquance et l'immigration. Mais attention, sur chaque thème, entre 26 et 42% des sondés ne cite aucun candidat, ce qui interroge sur le niveau de déception et peut-être d'abstention le 10 avril prochain.
Voilà, sondage réalisé les 18 et 19 janvier auprès de 1067 personnes représentatives de la population. Merci Yaël Gauz. Le pouvoir d'achat, première préoccupation du moment donc, portée par l'inflation des derniers mois, elle atteint 9% depuis 2 ans. Pour les fruits et légumes, selon l'Observatoire des prix de l'association Famille Rurale, les clients de ce marché d'Auxerre l'ont bien senti passer, Delphine Martin.
Le marché Sainte-Geneviève, qui se tient tous les dimanches à Auxerre, est réputé pour ses prix raisonnables. Mais même ici, on constate la hausse et les clients sont plutôt fatalistes.
Bah c'est cher, mais bon, il faut bien manger. Hein, mais...
Tout est cher maintenant. Hein.
On suit, on ne peut pas faire autrement. Hein.
Certains reconnaissent même qu'ils changent leurs habitudes de consommation.
Plus ça augmente, plus on va diminuer au niveau des achats. Ça automatiquement.
Bah, disons que par exemple une orange, au lieu d'en manger une chacun, on la coupe en deux.
En face, les commerçants se disent démunis, comme Mohamed Didouna, qui se fournit à Rungis.
Ça vous fait 18,80, monsieur.
Il assure qu'il ne peut pas faire autrement que de répercuter la hausse.
On ne peut rien faire. On est obligé de monter les prix aussi. Franchement, ça vient pas de chez nous, ça vient des grands marchands.
En tout cas, pour de nombreux clients, cette hausse des prix des fruits et des légumes n'est qu'une partie du problème. Tout augmente, disent-ils, sauf leurs revenus.
Tout, les pâtes, le beurre, enfin, moi, je m'en rends compte. Hein. Moi, j'ai qu'une toute petite retraite, alors je marque absolument tout ce que j'achète. Ben, par rapport au mois de juin, je dépense facilement 50 euros de plus pour la nourriture. Si ça continue, je peux y arriver, moi.
La Delphine Martin, France Bleu, Auxerre, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Valérie Pécresse, par exemple, promet d'augmenter les salaires de 10% jusqu'à 3000 euros. Elle veut aussi supprimer les droits de succession pour 95% des Français en exonérant l'héritage jusqu'à 200 000 euros par enfant. C'est à lire dans le Figaro ce matin.
À gauche, il est 8h05, Florence. Ils veulent peser sur leur camp, dispersé.
467 000 inscrits à la primaire populaire. Ils avaient jusqu'à minuit pour le faire. Le vote électronique aura lieu de jeudi à dimanche, mais il n'engage pas les principaux candidats qui soit n'en veulent pas, soit n'ont pas promis de se rallier à qui que ce soit après le résultat. Dans ce contexte, voilà une déclaration qui intrigue, signée François Hollande, interrogé par des lycéens. La séquence a été diffusée sur France 3 hier soir.
Bah pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs. J'ai les mêmes idées qu'avant, donc je continue à les défendre. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé être candidat à l'élection présidentielle.
Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt? Je pose la question.
Je vais en tout cas prendre la parole bientôt.
François Hollande, énigmatique. Manifestement, les dés ne sont toujours pas jetés à gauche. Et côté santé, deuxième préoccupation des Français, nous dit notre sondage Ipsos. Voici venu le temps du vaccin obligatoire pour aller au restaurant, au cinéma, prendre le TGV ou faire des longueurs à la piscine. Le pass sanitaire se transforme en pass vaccinal à partir d'aujourd'hui pour les plus de 16 ans. Et certains de ceux qui refusaient les piqûres passent le pas. L'injonction, Véronique Julia, a déjà porté ses fruits.
Bonne résolution de rentrée ou réaction à chaud après les déclarations d'Emmanuel Macron et son envie d'emmerder les non-vaccinés le 5 janvier dernier. Toujours est-il que cette première semaine de l'année a constitué un petit record de primo-injection, 230 000 en une semaine, du jamais vu depuis le mois d'octobre. On a fini la semaine passée sur des chiffres sensiblement identiques. Résultat, on passe allègrement sous la barre des 5 millions de non-vaccinés de plus de 12 ans. Ils ne sont plus que 4,6 millions. La provocation du chef de l'État a donc sans doute fait son effet, tout comme son allocution télévisée du 12 juillet dernier. En annonçant l'extension du pass sanitaire aux bars, restaurants et trains pour le 1er août, il avait suscité à l'époque des prises de rendez-vous massives avec près de 400 000 primo-vaccinations le 31 juillet dernier. L'annonce le 17 décembre par Jean Castex du pass vaccinal lui-même, sans qu'il soit encore entré en vigueur, a aussi produit son effet ces dernières semaines. Entre mi-décembre et mi-janvier, 1 million de Français sont allés se faire injecter leur première dose. C'est 50% de plus qu'un mois plus tôt. La progression fulgurante des chiffres de contamination dans la période a peut-être aussi joué un rôle.
À ce jour, près de 54 millions de Français sont vaccinés avec au moins une dose. Et avec le pass vaccinal, le contrôle des papiers d'identité. On pourra nous les demander partout où le pass est nécessaire pour vérifier sa validité. Jusque-là, c'était une prérogative des forces de l'ordre dont les salariés des établissements concernés n'ont pas franchement envie de s'emparer, Jeanne Dossé.
Désormais, les restaurateurs peuvent contrôler la pièce d'identité d'un client en cas de doute sur la correspondance entre la personne et son pass. Mais qu'est-ce qu'un doute, s'interroge Thierry Martin, patron du Haddock Café, place du Don à Amiens.
C'est un peu compliqué de savoir si la date de naissance correspond bien à la personne qu'on a en face. Il y a des gens qui font plus vieux que leur âge, des gens qui font plus jeunes. Sur le prénom, il y a des prénoms que nous on connaît pas, qui s'adaptent au masculin et au féminin.
En cas de contrôle, les restaurateurs redoutent de créer un sentiment de discrimination. Pourquoi vérifier les papiers de tel client et pas ceux d'un autre. Alors pour éviter cela, beaucoup de patrons contrôleront l'identité seulement en cas de gros doute, comme le gérant du Haddock Café.
Si j'ai une personne qui vraisemblablement a 20 ans et me présente un pass où la date de naissance est de 1960, sûrement que je vais contrôler. Mais sans ça, non, il y aura très peu de contrôle parce que je pense que les gens qui ne veulent pas avoir de pass ne veulent même pas avoir de faux pass. Ils veulent pas venir chez nous.
Pour vérifier d'un coup d'œil la validité d'un pass, il faudrait une photo, disent les restaurateurs. Sinon, ils craignent de tomber dans du flicage. Patrick Foucard, le gérant du bar à Paps dans le centre d'Amiens.
C'est une position, j'ai du lien, mais une position bâtarde. Ici, c'est un bar convivial. On est en train de dégoûter les gens de sortir. On a déjà de moins en moins de clients. On finira par plus rien avoir.
Les clients sont aussi moins nombreux avec le télétravail. Actuellement, certains établissements amiénois perdent jusqu'à la moitié de leur chiffre d'affaires par mois.
Reportage signé France Bleu Picardie. Contre les restrictions sanitaires, 50 000 personnes ont manifesté hier à Bruxelles, parfois venues d'autres pays d'Europe. Des affrontements ont eu lieu, pavés et barrières métalliques lancées sur les policiers qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Un nouveau signe de tension autour de l'Ukraine. Les États-Unis appellent les familles de leurs diplomates à quitter le pays. Loïc Loury, Washington, estime que la Russie peut attaquer à tout moment.
L'option était sur la table depuis quelques jours et l'ordre a finalement été donné hier soir par Washington. Les familles des diplomates en poste à Kiev devront quitter le pays. La faute, dit le département d'État, est une situation imprévisible, une invasion russe pouvant se produire à tout instant. Les personnels non essentiels peuvent partir s'ils le souhaitent. Quant aux ressortissants américains en Ukraine, ils devraient envisager maintenant de plier bagages, dit Washington. Le signe d'une situation de plus en plus volatile. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, hier, a encore mis en garde le Kremlin. Il y a la voie du dialogue, de la diplomatie et celle d'une agression russe qui entraînerait pour Moscou des conséquences massives. Si le moindre soldat russe pénètre en Ukraine de façon agressive, cela déclencherait une réponse rapide, sévère, unie de notre part et de celle des Européens. Sans invasion, pas de sanctions préventives, affirme toutefois Anthony Blinken, mais les États-Unis vont poursuivre leur livraison d'armes à l'Ukraine. Joe Biden, lui, étudie l'envoi en Europe de l'Est de plusieurs milliers de soldats. Le président pourrait prendre sa décision dès cette semaine. New York, Loïc Laurie, France Inter.
Les Américains qui Washington déconseillent aussi de se rendre en Russie. La situation est confuse au Burkina Faso où des mutineries ont eu lieu dans plusieurs casernes militaires soutenues par des manifestants dans la rue. Les soldats réclament le départ des chefs de l'armée et des moyens pour lutter contre les djihadistes. Des tirs ont été entendus en fin de journée près de la résidence du président Kaboré. Et puis en Tunisie, c'est une grande consultation nationale qui a commencé il y a une semaine. Le président Kais Saied pose une série de questions à son peuple sur Internet. Lui qui s'est emparé des pleins pouvoirs l'été dernier, il veut modifier la constitution. Manœuvre populiste selon l'opposition qui appelle au boycott de la consultation. Et de fait, la participation est timide. Reportage signé Maureen Mercier dans la petite ville de Sidi Hassine.
Wajdi, 43 ans, découvre les questions sur son téléphone portable. Exemple, seul l'État est habilité à organiser les affaires religieuses. Réponse possible, oui, non, sans opinion. Ou cette question qui intéresse particulièrement le président, quel régime politique préférez-vous, présidentiel, parlementaire ou mixte? Wajdi, qui soutient Kais Saied, est ravi.
J'ai l'espoir que l'État suive enfin la bonne voie. Avec cette consultation, on voit enfin apparaître un début de vraie démocratie.
L'opposition dénonce une démarche populiste dont l'unique objectif pour Kais Saied serait d'asseoir son pouvoir. Aziz Krishan est une grande figure de la gauche tunisienne et opposant à Kais Saied. Évidemment que si on lui demande s'il participera à la consultation, sa réponse est...
Répondre aux questions débiles du questionnaire, non. L'objectif politique derrière ce truc-là, c'est de dire les Tunisiens veulent un régime présidentiel fort.
Autre crainte d'Aziz Krishan...
C'est évident que ça va aussi servir à afficher les gens. C'est absolument évident.
La consultation court jusqu'à fin mars. Pour l'heure, sur 12 millions d'habitants, environ 100 000 Tunisiens ont participé, selon les chiffres officiels. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
En France, 85% des TGV annulés entre Paris et Bordeaux. Aujourd'hui, le trafic en région sud-ouest sera aussi très perturbé par une grève des aiguilleurs du rail. Il restera à jamais associé aux silhouettes des femmes des années 80. Épaules larges et jupes fourreau, le couturier Thierry Mugler est mort hier à l'âge de 73 ans. Il avait quitté la mode en 2002, mais Beyoncé ou Lady Gaga portent toujours ses créations tout en force et en féminité, femme puissante, quoi. Thierry Mugler, c'est aussi un parfum qui a traversé le temps depuis sa sortie en 1992. Angel, à l'essence sucrée, reconnaissable entre mille, c'est toujours l'un des parfums les plus vendus en France.
J'ai sorti Angel à une époque où la grande mode des parfums n'était uniquement dans les gimmicks qui se renouvelaient tous les 6 mois. Et c'était la seule chose bancable. Et j'ai voulu faire un parfum, un nouveau mythe, un parfum mythologique de grande qualité, en cristal, fini à la main, etc. Et en plus, une couleur bleue. Mais le bleu, dans l'histoire du parfum, ne s'est jamais vendu, en tout cas pour un parfum de femme, jamais. Mais vu que j'avais réussi à faire cette étoile bleue, et qui était aussi soi-disant impossible à réaliser, donc quand on a testé un jus ambre dans l'étoile, et ben ça ne marchait pas. Effectivement, j'ai pu convaincre Et nous avons trouvé le système pour que ce bleu ne tache pas. Vous et avez... surtout, c'est cette essence qui n'avait jamais été créée avant, cette odeur de praline et de chocolat.
Voilà, Thierry Mugler, effectivement, on le sent ce parfum chez certaines de nos collègues dans les couloirs. À l'Open d'Australie, nouvel exploit pour le tennis français après Gaël Monfils. C'est Alizé Cornet qui se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire ce matin face à la Roumaine Simona Halep. C'est la première fois qu'elle atteint ce niveau en grand chelem. Rendez-vous désormais avec l'américaine Danielle Collins pour une place en demi. Maintenant, très loin de la vitesse, très loin du sport et loin de tout d'ailleurs. Voilà, voici le silence des montagnes Huang au cœur de la Chine, sous les traits d'ermites chinois. C'est la collection Ji Li Ho du musée d'art de Hong Kong, exposée au musée Tchernouski à Paris. Peindre hors du monde. Isabelle Pasquier, une centaine de dessins, de calligraphies, de peintures sont exposés du 15e au 17e siècle.
Dans ces sublimes peintures à l'encre, au milieu des montagnes, l'homme est minuscule, comme un intrus anecdotique et tellement fragile, avec des pagodes, des cabanes construites au bord du vide. Ces paysages, hors du monde, sont les refuges de ces peintres-poètes que l'on appelle les lettrés, des intellectuels qui ont choisi de tout abandonner, leur carrière de haut fonctionnaire, par refus de la nouvelle dynastie Qing. Dans les montagnes Huang, séjour des immortels pour les taoïstes, ils vivent de méditation, contemplation, peinture et calligraphie, une contestation radicale du pouvoir qui peut les conduire à la mort, au suicide. Éric Lefebvre, directeur du musée Tchernouski.
On a au milieu de l'exposition, à côté de toutes ces belles peintures, d'extraordinaires calligraphies. Et le plus grand maître de cette calligraphie, qui s'appelle Huang Daozhou, et au moment de la chute de l'Empire des Ming, prend les armes, il va être pris et il va être exécuté par les armées mandchoues. Il est aujourd'hui très célèbre pour avoir signer ses dernières calligraphies de son propre sang. Ce qui fait que c'est à la fois de très grands artistes que l'on contemple, mais aussi des personnalités qui ont une stature morale hors du commun dans l'histoire de la Chine.
Et ses œuvres, peintes hors du monde, ont un pouvoir magique. C'est un voyage détox hors du temps, dans la beauté, le silence et l'infini.
On laisse avoir jusqu'au 6 mars au musée Tchernouski, comme dit Isabelle Pasquier, ou Cernouchi, comme dit Pierre Aski, vous ferez votre choix.
Ouais. Enfin, Pierre qui valide l'exposition.
Oui, Pierre qui valide l'exposition. Aussi. Et puis on valide aussi la révélation du matin, qu'on rappelle, puisque c'est Delphine de Vigan qui sera cette année la présidente du jury du Livre Inter. Et que vous avez jusqu'au 28 février inclus pour nous écrire, envoyer vos lettres pour devenir vous aussi juré du Livre Inter, soit sur Internet, soit Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Les gelées sont nombreuses, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, en fait, le ciel est bien plus dégagé que prévu, avec un petit vent d'est qui s'est levé. Il s'est formé moins de grisaille sous ce dôme anticyclonique et le mercure est descendu à moins 9 en Haute-Loire, moins 8 à 10 dans la Drôme. Vous avez moins 4 à Aurillac, Mulhouse ou Mont-de-Marsan, moins 2 sur les Ardennes, 0 à Rennes comme à Marseille, un petit degré à Paris ou Perpignan, 4 à Calvi et 9 à Le Cadre. On a quand même quelques brouillards, hein, parfois givrants et des poches de grisaille près des côtes bretonnes, de la Vendée près des côtes de la Manche, du Cotentin au Pas-de-Calais, sans oublier ces régions entre le Berry, la Bourgogne et du Val-de-Saône au Lyonnais. Et ce matin aussi sur le Roussillon, on a un petit vent d'autant qui pousse des nuages maritimes sur le Roussillon, donc et le Languedoc.
Et un soleil très généreux cet après-midi.
Et oui, surtout au nord de la Loire où les grisailles ne se dissipaient pas ces derniers jours. Aujourd'hui, on pourra faire le plein de vitamine D sous le soleil avec quelques nuages bas sur la pointe bretonne et le haut du Cotentin, mais aussi sur le Roussillon et comme souvent du Val-de-Saône au Lyonnais où le mercure restera bloqué à 3 degrés de Dijon à Lyon. Vous aurez 6 à Strasbourg, 7 à Paris, à Lille et à Nantes. On attend 11 à Bordeaux, 13 à Montpellier et Antibes, 14 à Biarritz et Ajaccio et 15 à Tarbes.
Merci Marie-Pierre. Il est 8h19, géopolitique.